Les cours du Collège de France, État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, Alain Supiot.
Bien, bonjour à tous. Donc je vous rappelle que la semaine prochaine, il n'y aura pas de cours en raison de... puisque ça sera le séminaire qui se tiendra jeudi et vendredi, selon le programme qui est affiché dans la cour. Et nous nous retrouverons simplement la semaine suivante pour deux cours. Alors, bon, j'aurai de quoi continuer pendant 20 heures, donc il faudra que je me discipline. Donc, mon projet, ce serait quand même d'aller au bout, même en concentrant de ce que je voulais vous dire sur les transformations des relations de travail, et puis sur le dernier cours, au moins, vous montrer comment le lien d'allégeance qu'on va décortiquer dans les transformations des relations de travail, ça peut fonctionner aussi dans les relations entre les entreprises. Donc, le dernier cours devrait être consacré aux notions d'allégeance dans les relations entre entreprises ou entre entreprises et État, par exemple, comme on peut le voir dans l'affaire BNP Paribas actuellement, qui est un très bon exemple où les plus grosses sociétés sont amenées à faire allégeance à des États. Donc mon idée, c'était dans le dernier cours de vous parler de ça et aussi de l'affaire du Rana Plaza qui pose les autres questions de réseaux de fabrication, de distribution ou de fournisseurs. Donc je vais essayer dans les deux heures qui restent, de peut-être en concentrant un peu, d'entrer vraiment, là on va entrer un peu plus dans le détail juridique sur les questions des transformations du contrat de travail. Alors on avait commencé en évoquant l'île de la Tentation, et à partir de cet arrêt, ce que j'avais dit, c'est que la Cour de cassation, la jurisprudence, avait montré la capacité du concept de subordination à encadrer des formes radicalement hétérogène de travail, et y compris de ce qui peut paraître comme du non-travail, comme la participation à une émission de télé-réalité. Et dès lors que cette interprétation élargie de la subordination ne permet pas aux nouvelles formes d'organisation du travail de se déployer hors du droit du travail, eh bien ces nouvelles formes transforment de l'intérieur les équilibres juridiques qui étaient issus du compromis fordiste. Alors, dans une étude que j'avais publiée maintenant il y a 15 ans à peu près, je m'étais efforcé de dessiner les nouveaux visages de la subordination, tels qu'ils se donnaient à voir juridiquement au tournant du siècle. Et à grands traits, j'essayais de montrer que les nouvelles formes d'organisation du travail tendaient à brouiller la frontière entre travail dépendant et travail indépendant. D'un côté, en droit du travail, on assistait déjà à l'affirmation d'une certaine autonomie dans la subordination, qui résulte notamment du droit reconnu aux salariés de s'affranchir de celle-ci pour des raisons de sécurité, par exemple le droit de retrait, ou bien pour se consacrer à d'autres activités rémunérées ou non, comme les congés spéciaux. Et réciproquement, on observe dans le monde des travailleurs dits juridiquement indépendants la multiplication de situations d'allégeance qui résulte notamment de contrats qui intègrent leur activité à des réseaux de production ou de distribution. Donc c'est ce qui était cette coupure fondamentale entre travail dépendant et travail indépendant. On pouvait déjà déceler au tournant du siècle qu'elle commençait à être mise en cause. Et loin de se démentir, ces tendances se sont affirmées depuis, en sorte qu'il est possible de les analyser plus finement. Donc je reviendrai sur la situation des indépendants dans le dernier cours. Donc je vais m'en tenir ici aux transformations de l'économie du contrat de travail. Ce contrat, dans le régime fordiste, était conçu, nous l'avons dit, comme un échange de biens, du temps de travail, comme des quantités de temps de travail contre du salaire. Et ce type d'échange fait progressivement place à l'établissement d'un lien d'allégeance du salarié vis-à-vis de l'employeur. Et ce lien combine un élément personnel et un élément réel. L'élément personnel c'est l'engagement du salarié de se mobiliser pour répondre aux attentes de l'employeur. Nous retrouvons ce concept de mobilisation, je parlais de mobilisation totale au début du cours, c'est-à-dire d'être à tout moment disponible et réactif. Bon, ce sont des attentes qui n'existaient pas dans l'universitaire, dans l'univers tayloriste. Et cette mobilisation de sa personne tout entière se traduit par une certaine indétermination des conditions et du contenu de son travail. Ça, c'est ce que nous verrons dans un premier temps. C'est l'élément personnel. Et l'élément réel, ce sont des droits qui sont attachés à sa personne pour le rendre plus autonome et moins dépendant de son emploi. Donc, dans une première section, on va essayer de clore pendant cette séance à peu près. On va voir le premier volet, c'est l'indétermination croissante des conditions et du contenu du travail. La mobilisation totale ne s'accommode pas de la définition quantitative des obligations des travailleurs qui caractérisait le régime fordiste. En effet, elle exige plus que la simple soumission aux ordres, elle exige leur engagement, c'est-à-dire leur disponibilité, leur réactivité. Il ne s'agit plus de se borner à exécuter des ordres pendant un temps convenu à l'avance, mais de se tenir prêt à répondre aux besoins du marché tels qu'ils sont appréciés par l'employeur ou, dans le cas des chômeurs, tels qu'ils sont appréciés par l'agence de l'emploi. Autrement dit, les travailleurs doivent être à tout moment mobilisables et, le moment venu, se mobiliser pour réaliser les objectifs qu'on leur assigne. Et cette exigence peut mettre en péril non seulement la sécurité physique, mais la santé mentale du travailleur. Là, en effet, où le taylorisme leur enjoignait de ne pas penser, la direction par objectif étend aux esprits des disciplines qui jusqu'alors étaient réservées au corps. Et elle le fait en usant massivement des psychotechniques. Le premier à avoir observé ce phénomène, c'est le grand sociologue avec qui j'ai eu la chance d'avoir de nombreux dialogues, Robert Castel. Et il est le premier à avoir ainsi observé et analysé l'émergence dans les entreprises de ce qu'il appelait une thérapie pour les normaux, c'est-à-dire l'extension des techniques médico-psychiatriques à des sujets bien portants dans le seul but d'optimiser leur capital humain. Et ces techniques, disait-il, permettent de faire effraction dans les sphères de la subjectivité qui échappaient à la rationalisation taylorienne. Je vais vous le citer, je pensais l'avoir sous forme de dia. L'impératif, écrit Castel, c'est d'apprendre soi-même à changer, c'est-à-dire l'exigence de travailler sa propre disponibilité et sa souplesse relationnelle au moins autant que ses connaissances. Comment, en effet, faire face aux changements technologiques et aux impératifs de la concurrence, si ce n'est en faisant du travailleur un être sans aspérité et sans crispation, dont les capacités sont mobilisables à tout instant? Mais comment y parvenir, si ce n'est en traquant ses blocages et ses résistances, en cultivant une spontanéité retrouvée, capable de répondre aux injonctions du présent? Donc Castel écrivait ça dans un livre intitulé « La gestion des risques de l'antipsychiatrie à l'après-psychanalyse » qui est paru en 1981. Et cet impératif d'adaptabilité est d'autant plus pressant que l'entreprise n'est plus le siège véritable du pouvoir économique. Dès lors, écrit Castel, qu'on a extrait des limites du négociable les options commandées par les lois du marché, les enjeux dans l'entreprise portent essentiellement sur les régulations relationnelles. Bon, alors je m'aperçois qu'en réalité, j'ai pas pris le début des diapositives au bon endroit, alors vous allez me pardonner, on va faire un petit retour en arrière, c'était là, voilà, mon désir d'aller de l'avant, d'être un travailleur mobilisé, comme vous le voyez, conduit à des dysfonctionnements. Et ce n'est pas que dans mon cas. Donc ça, c'est la citation de Castel. Et il concluait, la définition du travailleur tend à être moins donnée par son état, caractérisée à partir de son poste et de son statut dans le cadre de la législation du travail, que par le fait qu'il puisse présenter un ensemble de dispositions personnelles qu'il est invité à cultiver lui-même. Donc, disponibilité, réactivité sont les deux faces, passives et actives, de cette mobilisation totale des personnes. Et nous allons voir qu'au plan juridique, elles se traduisent l'une et l'autre par une certaine indétermination des termes de l'échange contractuel. Je commence par la disponibilité et l'indétermination des conditions de travail. Je vais vous donner un exemple qui semble presque caricatural de cette exigence de disponibilité en régime d'allégeance, mais qui cependant concerne un nombre croissant de travailleurs au Royaume-Uni. On estime que ça représente 1,5 million de contrats environ au début 2014. Il s'agit des contrats dits zéro heure, zero hour contract, qui se développe donc actuellement au Royaume-Uni. Cette illustration permet en effet d'illustrer ce qu'on pourrait appeler l'horizon du régime d'allégeance, celui d'une totale disponibilité du travailleur qui se traduit par une totale indétermination des prestations. Nous verrons ensuite les formes beaucoup plus modérées que cette indétermination a prises en droit français. Donc, Zero Hour Contract est un terme générique sous lequel on regroupe en droit anglais des situations dans lesquelles le travailleur s'engage à se tenir à la disposition d'un employeur qui demeure libre de fixer le nombre et le moment des heures de travail qui sont effectuées et payées, sans s'engager d'ailleurs à ce qu'il y en ait même une seule. Inventé par la pratique dans un contexte de réduction drastique des allocations chômage, contrats zéro heure sont concentrés dans quelques secteurs d'activité que vous pouvez voir sur ce tableau. Alors, il ne faut pas confondre ces contrats, pour ceux qui connaissent un peu le droit du travail anglais, avec les contrats on-call, en français ce qu'on appelle le travail au sifflet, dans la mesure où ces derniers prévoient la durée et la rémunération de périodes d'astreinte. C'est-à-dire, quand vous devez être à la disposition, on vous paye sous un régime d'astreinte. Il ne faut pas non plus les confondre avec ce qu'aux États-Unis on appelle l'emploi at will, à volonté, hein, qui est de règle en droit américain et qui désigne le droit discrétionnaire de l'employeur de rompre le contrat quand bon lui semble. Donc le contrat at will, c'est un contrat où on précise un temps, un lieu de travail, un montant de salaire, simplement l'employeur a le droit d'y mettre fin quand il le veut, à sa guise, à sa volonté. La multiplication des contrats zéro heure a fini par soulever un problème de qualification juridique au Royaume-Uni. Est-ce qu'il faut considérer ces travailleurs comme des workers ou comme des employees? Alors, je ne suis pas sûr que cette distinction soit familière à vous tous. Elle recouvre à peu près celle que nous opérons entre indépendants et salariés. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que workers, c'est l'ensemble des gens qui vivent de leur travail, et employees, c'est ceux qui vivent de leur travail dans un régime de subordination. Donc, les employés sont aussi des workers, mais il y a des workers qui ne sont pas des employés. Donc, ce sont des gens qui... Et certaines lois peuvent s'appliquer cependant à eux, par exemple en matière de sécurité du travail. Mais ils ne sont pas considérés comme des salariés. On peut mettre fin à leur contrat sans respecter une procédure de licenciement. Donc, la question s'est posée de savoir est-ce que ces salariés zéro heure sont, pour le dire dans une traduction approximative française, des salariés ou des prestataires de services indépendants, des auto-entrepreneurs. Cette distinction entre worker et employee repose aux États-Unis, en Angleterre, sur un faisceau d'indices qui permet de caractériser le contrat de travail. Et on considère que le travail est salarié lorsqu'il est accompli, premier critère, personnellement. Deuxième critère, sous le contrôle du donneur d'ordre, ça c'est le critère de la subordination, comme en France. Et troisièmement, dans un rapport de mutualité d'obligation. Alors ce troisième paramètre, c'est évidemment le plus brumeux, et c'est typiquement anglais. Et c'est lui qui fait difficulté dans le cas des contrats zéro heure. Alors, les tribunaux ont opéré au cas par cas, à l'anglaise, dans les litiges qui leur ont été soumis. Ainsi, on a une décision de l'Employment Appeal Tribunal, qui est une des juridictions les plus importantes dans le domaine social, qui en 2012 a qualifié un contrat à zéro heure de contrat de travail, en considérant que, en fait, en observant ce qui s'était passé dans les rapports de travail, il y avait eu des heures régulières qui avaient été travaillées, et ça suffisait à établir la mutualité des obligations dans le cadre, dit la Cour, d'un contrat cadre qui est qualifié par le juge de « global or umbrella contract of employment ». Bon, donc c'est un contrat parapluie sous lequel on peut avoir des prestations de travail multiples. Et ce contrat parapluie est qualifié de contrat de travail. La question fondamentale pour les juristes anglais, parce qu'il y a un début de discussion, il y a eu des rapports au Parlement l'année dernière au Royaume-Uni, c'est de savoir si un contrat zéro heure pur, c'est-à-dire ne comportant aucun minimum d'heures de travail garantie, est encore un contrat. Si je dis je ferai appel à vous quand je voudrais, comme ça je chanterai, peut-être jamais, est-ce que ça, c'est un... et vous dites bah d'accord, est-ce que ça c'est un contrat ? En droit français, la réponse serait certainement négative. On pourrait y voir un contrat unilatéral, mais au terme du Code civil, l'article 174, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. C'est-à-dire que si l'une des parties se réserve le droit de faire ce qu'il veut, on dit on n'est plus dans le cadre d'un... le contrat est nul. Il semble bien que la nullité soit aussi encourue en common law. Alors, la notion de contrat, je n'ai pas le temps de faire beaucoup de droit comparé, mais derrière les mots, vous le savez, la similitude des mots et des notions, il y a des différences. Et la notion de contract en common law ne recouvre pas exactement la notion française de contrat ou de la notion allemande de Vertrag. Le contrat est défini par les Anglais. Nous, les Français, on voit le contrat comme une rencontre de volonté. Voilà, je te veux, tu me veux, ça y est, c'est fait. Bon. Alors que eux, c'est un échange. Je t'invite à dîner, tu vas faire la vaisselle. Enfin bon. Donc, c'est plus pragmatique, on peut dire. C'est un échange, bargain. C'est ça le cœur de la notion de contrat pour les Anglais. Il faut qu'il y ait une offre, une acceptation, ce qu'ils appellent une consideration, c'est-à-dire une contrepartie ayant une valeur économique. C'est pour ça que le droit anglais ne reconnaît pas l'existence d'un contrat unilatéral, par exemple. Qui, pour nous, la donation acceptée, c'est un contrat unilatéral. Pour les Anglais, ce n'est pas un contrat. Alors, le contrat zéro heure n'est pas un contrat, mais un pur lien d'allégeance, dans la mesure où il fait du travailleur une ressource mobilisable à tout moment. En France, nous n'avons pas d'exemple comparable. C'est-à-dire l'exigence croissante de disponibilité du travail n'a pas donné jour à un tel degré d'indétermination des prestations. Mais cette indétermination n'en a pas moins gagné du terrain ces dernières années. Cette indétermination résulte tout d'abord du nouveau régime de la modification du contrat de travail tel qu'il s'est affirmé depuis 1996. Alors, là, je fais des choses, je crains que pour les spécialistes, ce soit des choses connues, et pour les non-spécialistes, ce soit un peu technique, mais je vais essayer de tracer la voie moyenne. Bon, en principe, vous le savez, le contrat, c'est la loi des parties, et donc les obligations que stipule un contrat ne peuvent être modifiées que d'un commun accord. Toutefois, s'agissant du contrat de travail, l'application de ce principe doit être conciliée avec le pouvoir que l'une des parties, l'employeur, a acquis de diriger les activités de l'autre. Donc il faut bien qu'il y ait une marge de changement pour que ce pouvoir puisse s'exercer. Donc d'un même mouvement, le contrat de travail fonde un pouvoir et le limite. Mais où fixer cette limite ? Du pouvoir de modifier les conditions de travail. Jusqu'en 1996, c'est l'interprétation de la volonté des parties, on est vraiment dans cette définition française que je disais tout à l'heure du contrat, qui servait à la tracer. Si une décision de l'employeur, disait la Cour de cassation, affecte une disposition essentielle, c'est-à-dire une disposition qui avait été déterminante du consentement du salarié, alors, disait le juge, on a affaire à une modification substantielle du contrat, et par conséquent, il faut le consentement du salarié pour procéder à cette modification. Donc vous voyez, le critère, c'était quelle avait été la volonté des parties. Est-ce que le salarié et l'employeur étaient d'accord pour considérer que tel élément était essentiel? Autrement dit, est-ce que si cet élément n'avait pas été présent, on fait un exercice de l'esprit, le salarié ne se serait sans doute pas engagé. Donc dans ce cas-là, l'employeur ne peut pas toucher à cette condition sans obtenir son consentement préalable. Alors cette façon de voir a été modifiée dans un arrêt... dans un arrêt Ganvi et Société Cotorem en 1996, et ça a été modifié au profit d'une définition objective du pouvoir de direction de l'employeur. La Cour de cassation a dit qu'il ne faut plus distinguer modifications substantielles et non substantielles fondées sur un critère psychologique. Il faut se demander si l'employeur a imposé un changement qui rentrait dans le cadre de son pouvoir de direction ou bien un changement qui portait une modification à une disposition contractuelle. Donc l'idée, c'est que l'employeur peut apporter unilatéralement aucune modification au contrat, mais qu'en revanche, il peut imposer toute espèce de modification des conditions de travail du salarié, car la fixation de ces conditions relève de son pouvoir de direction. C'était difficile d'interpréter la portée de ce changement. Mais en réalité, il n'est pas seulement terminologique, comme l'a cru une partie de la doctrine, qui s'est dit, bon, ben, au fond, ce qu'on appelait modification substantielle, on appelle ça maintenant modification du contrat, et non substantielle, c'est le pouvoir de direction. Non, ce changement touche à la conception même de la relation de travail. Il a généralement été interprété comme une revalorisation du contrat individuel, dont la force obligatoire ne peut plus être mise en échec, même sur des points mineurs, par l'employeur. Alors, cette interprétation contient une part de vérité, et on se souvient d'ailleurs du mot d'ordre des réformes Auroux au tournant des années 80, « Citoyens dans la cité, les salariés doivent l'être aussi dans leur entreprise ». Ces réformes, c'était une autre époque, hein, je vous parle là vraiment... ça fait bizarre. Hein. Ces réformes visaient à ce que, dans l'exercice même du pouvoir de direction de l'employeur, le salarié ne perde pas sa qualité de sujet de droit. D'où d'une part la reconnaissance de droits nouveaux, comme le droit de retrait des situations dangereuses ou le droit d'expression directe, qu'on a oublié aussi, mais qui avait été créé à cette époque, et d'autre part la limitation fonctionnelle des pouvoirs patronaux par le justement célèbre article aujourd'hui 1121.1 du Code du travail, selon lequel nul ne peut apporter aux droits des personnes, c'est une loi du 4 août, à l'époque on avait le sens de symbole, aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives, de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Alors, cette belle formule manifestait en fait déjà, si on y réfléchit rétrospectivement, une métamorphose du lien de subordination. Le salarié n'est pas réduit ici à l'état d'un outil entre les mains de l'employeur, il est reconnu comme sujet agissant, titulaire de liberté individuelle et collective que l'on doit préserver autant qu'il est possible. Mais cette médaille a évidemment son revers. Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement du travail, la loi consacre explicitement le pouvoir de l'employeur de restreindre les droits et libertés des salariés. Eh bien, le changement du régime de modification qui a été imposé par la Cour de cassation en 1996 s'inscrit dans la même perspective. On peut dire qu'il civilise l'entreprise en y préservant les attributs que le salarié tire de sa qualité de contractant, mais dans le même temps, il donne une base objective au pouvoir de l'employeur de modifier les conditions de travail du salarié, quelle que soit l'importance subjective qu'elle revêtait pour ce dernier. Alors, c'est un peu abstrait ce que je viens de vous dire, donc je vais vous raconter les faits de l'espèce qui ont donné lieu à ce revirement de jurisprudence. Le salarié n'était pas parvenu à atteindre les objectifs financiers qui lui avaient été assignés par la compagnie d'assurance qui l'employait. Aussi, l'employeur avait décidé de le reclasser dans son emploi antérieur, moins bien rémunéré. Donc, il y avait une perte de rémunération pour le salarié. Et c'est dans ce contexte de direction par objectif que la Cour de cassation a décidé, ça c'est la formule donc, de l'arrêt Ganvi, qui est l'arrêt de principe, le refus par un salarié de continuer le travail ou de le reprendre après un changement de ses conditions de travail décidées par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue en principe une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement. Donc c'est une faute grave. Donc on vous a mis sur une fonction mieux payée, on vous remet à une autre, vous dites ça ne va pas, je ne veux pas, ça change des conditions pour moi substantielles. On dit non, comme c'est dans l'exercice du pouvoir de direction, ce changement d'affectation, ne pas s'y soumettre, c'est constitutif d'une faute grave. Alors cette nouvelle jurisprudence n'entraîne donc pas un affaiblissement, mais une mutation du lien de subordination. Le salarié auquel on restitue tous les attributs de sa qualité de contractant doit se mobiliser au service des objectifs définis par l'employeur. Et se mobiliser, c'est accepter par avance toute espèce de modification de ses conditions de travail, quelle que soit l'importance subjective qu'on leur prête. Le contrat de travail emporte ainsi ce qu'on peut appeler une acceptation anticipée par les salariés des modifications de leur contrat, de leurs conditions de travail décidées par l'employeur. Et ça, c'est quelque chose qui est typique de l'allégeance. Je surlignerai au fur et à mesure, parce que ce sont des points qu'on va retrouver dans les rapports entre entreprises dominantes et dominées, par exemple. L'indétermination qui en résulte est en principe circonscrite par l'intangibilité des obligations que l'employeur a lui-même souscrites. Vous allez dire, oui, quand même, il y a cette espèce de bunker, de forteresse que sont les dispositions qui sont contractuelles, puisqu'elles sont au contraire sanctuarisé par l'arrêt de 96. Mais sur ce point aussi, la jurisprudence a évolué dans le sens d'une définition objective du pouvoir de direction qui met à mal la force obligatoire du contrat lui-même. Elle a en effet inventé l'existence dans le contrat de travail de clauses qui auraient une valeur purement informative, dit-elle, purement informative. Et ne lirez donc pas l'employeur. Donc, dans le contrat de travail, vous pouvez lire des choses, vous pensez que l'employeur s'est engagé, mais le juge va vous dire non, c'était juste pour vous informer, mais ça ne lie pas l'employeur. Ces clauses ont fait leur apparition dans un arrêt de la Chambre sociale du 3 juin 2003 qui concernait une société de services informatiques à l'identité changeante, peu importe. Enfin, ça veut dire qu'elle passait de main en main et qu'on restructurait sans arrêt. Il faut avoir les éléments de contexte. Et le contrat de travail de la comptable de cette entreprise, donc cette entreprise avait une comptable, souvent des femmes, je ne sais pas si elle avait lunettes et chignons, mais comme normalement, c'est demandé au comptable, et elle stipulait qu'elle exercerait ses fonctions à Anthony. Et elle s'était fondée sur cette disposition pour refuser d'aller travailler dans les nouveaux locaux de la société qui étaient situés à Chaville, soit une quinzaine de kilomètres d'Anthony. Quand je regarde les arrêts, moi j'aime bien voir les cas, donc je suis allé voir une carte, et c'est à 15 kilomètres. Donc ça paraît, bon, 15 kilomètres, c'est 15 kilomètres, mais on peut dire, c'est pas... Mais si on regarde le métro, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus d'une heure de métro et RER. Et donc, elle dit, ben, je refuse, c'est trop compliqué pour moi, ce changement. Ça va me faire 2 heures par jour de trajet. Donc, pour moi, c'est substantiel. Je suis désolé pour vous. Vous pouvez dire qu'objectivement, c'est pas loin, mais pour moi, c'est substantiel, je refuse. Et je refuse d'autant plus que mon contrat prévoit un lieu de travail. C'est écrit. Vous voyez, donc, la malheureuse, c'est une comptable, elle se fie aux écritures. Elle dit, c'est écrit, donc j'ai le droit de... Bon. Et l'employeur lui dit, bon, je vous licencie, vous avez commis une faute grave au sens de la jurisprudence de 96. C'est-à-dire sans préavis ni indemnité. Alors elle se tourne vers la justice de son pays en disant, ça ne va pas du tout. J'ai un contrat qui dit que c'est là et on me licencie en disant, j'ai commis une faute grave en demandant simplement ce qui est écrit dans le contrat. Eh bien, la Cour de Versailles lui avait donné raison, bien que Cour de Versailles. Bon. Et dès lors, avait estimé le juge d'appel que la preuve était rapportée, que le lieu de travail était mentionné par le contrat, l'employeur n'avait pas le pouvoir de le modifier unilatéralement sans requérir le consentement préalable du salarié, et l'employeur devait donc être condamné. Donc vous voyez, la Cour de Versailles a pensé avoir appliqué l'arrêt de 96 que nous avons vu précédemment. Eh bien, son arrêt a été cassé par un attendu de principe de la Chambre sociale, au terme duquel la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information, à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu. Donc, soyez prudents quand vous signez un contrat de travail, parce que cette jurisprudence qui a été confirmée depuis fait prévaloir sur les dispositions du contrat une notion objective de ce qu'elle appelle le secteur géographique d'activité. C'est une notion fort vague, d'ailleurs en dépit de son objectivité supposée, et elle pourrait peut-être permettre de tenir compte de la desserte en moyen de transport, il y a des arrêts qui s'avancent un peu, mais pas de la distance du domicile du salarié à son nouveau lieu de travail, alors que cette considération subjective aurait été retenue avant le changement de jurisprudence de 1996. Et faisant un pas de plus dans l'objectivation du pouvoir de direction, la Chambre sociale a par la suite admis, je cite, que l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur, là on a un salarié qui dit, bon, d'accord, peu importe ce qui est écrit dans le contrat, c'est informationnel, mais vous avez, vous, juge, dit, on ne peut pas, sans mon accord, me changer de secteur géographique d'activité. Et là, c'était un cas où on l'avait changé, mais en lui disant c'est provisoire. Et la Cour de cassation dit c'est une affectation occasionnelle en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement, ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique. Et cette affectation occasionnelle ne peut pas constituer une modification du contrat de travail lorsqu'elle est motivée par l'intérêt de l'entreprise, qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible. Donc vous voyez que nous avons ici un accroissement de l'attente de disponibilité du salarié qui doit, si l'intérêt de l'entreprise l'exige, renoncer à ce que sont même ses protections contractuelles. Donc on a bien une érosion de la force obligatoire du contrat de travail. Et cette érosion est aussi visible, alors dans un texte qui a fait beaucoup plus parler en dehors des milieux spécialisés que les arrêts que je viens d'évoquer, qui sont les dispositions de l'accord national interprofessionnel dit ANI, dans le jargon des spécialistes, du 11 juin 2013, et la loi du 14 juin 2013, dont nous allons fêter le premier anniversaire prochainement, relative à la sécurisation de l'emploi. Vous vous souvenez peut-être des débats qu'avait suscité cette loi l'année dernière. L'un des apports les plus remarquables de cette réforme a institué deux nouveaux types d'accords collectifs d'entreprise qui peuvent avoir pour objet de suspendre la force obligatoire de certaines clauses des contrats individuels de travail. Alors, je vais commencer par vous présenter brièvement ce dispositif. Encore une fois, les spécialistes le connaissent, mais avant d'en faire un petit commentaire. Donc, je dis, il y a deux types d'accords qui ont été créés par la loi de 2013, l'année dernière. Premier type, ce sont les accords de mobilité interne à l'entreprise. Ce sont des accords qui peuvent être conclus dans des entreprises n'ayant pas de projet de réduction d'effectifs, mais qui sont désireuses de pouvoir imposer une mobilité professionnelle ou géographique à leurs salariés, nonobstant les stipulations contraires des contrats de travail. Donc il s'agit bien, par ces accords, d'aller au-delà de ce qu'a fait la jurisprudence en 1996. Donc on est dans des hypothèses où votre contrat de travail fixe un certain nombre de conditions, de lieux, de mobilité. C'est de la mobilité géographique, ces accords. Et l'entreprise dit, non, mais ça serait bien de pouvoir débrancher ces clauses individuelles. Et la loi nouvelle permet de négocier une telle mobilité dans le cas de la négociation obligatoire au niveau de l'entreprise ou du groupe d'entreprise. Et elle impose, dans les accords de mobilité, à la fois des limites et des compensations à cette mobilité. Limites et compensations qui sont énumérées à l'article 2242-22. Bon, comme je souhaite aller vite, on ne va pas s'arrêter sur l'article 2242-22. Mais vous observerez simplement que certaines de ces limites sont fonctionnelles, et renvoie au principe de proportionnalité. Il faut prendre en compte en particulier la situation personnelle du salarié. D'autres limites sont matérielles, c'est la fixation de la zone de mobilité, l'intangibilité du salaire ou de la classification. Quant aux compensations, elles sont à la fois monétaires et professionnelles, puisque c'est des actions de formation ou l'amélioration de la qualification. Une fois signée et portée à la connaissance des salariés, c'est là qu'on va avoir cet effet de débranchement de la force obligatoire du contrat, l'accord de mobilité a pour effet de suspendre les clauses des contrats individuels de travail qui lui seraient contraires. Et dès lors, l'employeur peut à tout moment mettre l'accord en œuvre et à cette fin, il doit recueillir l'accord individuel de chaque salarié concerné et ceux qui refusent s'exposent à un licenciement dont la qualification juridique est prédéterminée par la loi, c'est ça l'effet, mettant ainsi en principe l'employeur à l'abri de toute contestation judiciaire. C'est le dernier alinéa de l'article 22-42-23. Il s'agit d'un licenciement individuel pour motif économique qui ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement. Donc le salarié, l'employeur n'aura pas besoin de motiver son licenciement, si vous voulez, en cas de refus du salarié. Ça, c'est le dispositif des accords de mobilité interne. L'autre qui a été créé par la loi de 2013, ce sont les accords de maintien dans l'emploi institué par l'article 51-25-1. Alors, ces articles portent une atteinte plus substantielle à la force obligatoire du contrat, puisqu'ils peuvent conduire, eux, à une baisse de rémunération des salariés, alors que le salaire a toujours été considéré comme le noyau dur de l'intangibilité contractuelle. Donc, on a ce type de montage en contrepartie d'un engagement de maintenir les emplois. Eh bien, il va y avoir une modification des modalités d'organisation, de rémunération, ainsi que de rémunération. Là aussi, on a un certain nombre de limites. Le salaire ne peut pas descendre en dessous du taux horaire du SMIC majoré de 20%. La contrepartie, dans ce cas-là, c'est le maintien du lien contractuel. C'est-à-dire, c'est une espérance de conserver son emploi. Et la seule limite, donc, à l'atteinte au contrat est la fixation d'un plancher de rémunération. Alors, la loi de sécurisation de l'emploi qui a créé ces nouveaux accords a déjà été très commentée et je me bornerai à souligner ce qui intéresse ici directement notre sujet, c'est-à-dire le reflux de la loi contractuelle, au profit de ce qu'on peut appeler le lien contractuel. Pour préserver le lien, on porte atteinte à la force obligatoire de la loi des parties. Car ces nouveaux accords ne se contentent pas de rendre relative la force obligatoire du contrat, ils introduisent en contrepartie des obligations nouvelles qu'on aurait qualifiées en d'autres temps de paternalistes. L'employeur doit se soucier de la situation de famille du salarié, ainsi dans les accords de mobilité, du maintien ou de l'amélioration de sa qualification. Et vous voyez comment, à l'échange prévisible de quantité de temps et de salaire, ces dispositifs substituent la promesse d'un lien personnel durable, mais avec une certaine incertitude concernant les conditions de travail. Bien sûr, on dira que la sécurité du lien que font miroiter ces accords est fragile, qu'elle est souvent même illusoire, tandis que l'insécurisation du temps et du lieu de travail, voire de la rémunération, est-elle bien réelle? Et c'est vrai, et on a raison de le souligner. Mais du point de vue de l'analyse juridique, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas ça, c'est ce reflux d'un échange de prestations déterminées au profit d'une inféodation des personnes. Car ce passage, ce glissement, est révélateur d'un mouvement profond. Il faut se rappeler d'ailleurs à ce sujet que les accords de mobilité ou de maintien dans l'emploi ont repris les grandes lignes d'un projet qui avait été élaboré sous le précédent quinquennat, juste avant le départ de M. Sarkozy, sous le nom d'accord compétitivité-emploi. Et on reprend sous une autre peinturlure un peu la même structure. Ce qui montre que ces dispositifs procèdent d'un certain consensus politique, et pas d'un consensus syndical, je m'empresse de le dire, mais il y avait un consensus politique implicite, et non pas d'un emballement politique conjoncturel, comme on peut dire si on dit oh, « tiens, on va supprimer les délégués du personnel, ou permettre, ça va faire repartir l'emploi », comme on a entendu dire il y a quelques jours. Bon, enfin, je ne m'arrêterai pas sur des choses qui pourraient nous affliger. Ce ne sont, du reste, pas des exceptions en droit du travail, ces glissements, mais des manifestations, parmi d'autres, de l'érosion de la force obligatoire des contrats individuels face au statut collectif de l'entreprise. Et je vous en donne, pour terminer sur ce point, un dernier exemple, celui d'une disposition qui, elle, avait été adoptée juste avant la fin du précédent quinquennat, mais qui a été maintenue depuis. Je veux parler d'un article pas très connu, hein, c'est l'article 31.22.6 du Code du travail, au terme duquel la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail. Donc là, on nous dit aussi... Donc, on va répartir le travail. Donc, ça veut dire que c'est de la modulation dans le travail. C'est un impact important sur l'organisation de la vie des salariés. Eh bien, si c'est prévu par un accord collectif, ça ne constitue pas une modification du contrat de travail. Cette disposition a été subrepticement ajoutée au Code du travail par une loi du 22 mars 2012 relative, je cite, « à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives ». Alors, on dirait aujourd'hui à la faveur d'un choc de simplification. Elle avait fait l'objet à l'époque d'un recours devant le Conseil constitutionnel. Et la décision du Conseil constitutionnel est particulièrement instructive pour notre sujet. Répondant aux parlementaires qui l'estimaient contraire à la liberté contractuelle, mais qui cependant, une fois devenus majorité, ont conservé cette disposition, le Conseil constitutionnel a considéré, je cite, que le législateur a entendu conforter les accords collectifs relatifs à la modulation du temps de travail destinés à permettre l'adaptation du temps de travail des salariés aux évolutions des rythmes de production. Et, conclut-il, là encore je ne m'attarde pas, puisqu'il s'agit de permettre l'adaptation du temps de travail aux évolutions des rythmes de production, ces dispositions sont fondées sur un motif d'intérêt général suffisant et ne portent donc pas à la liberté contractuelle une atteinte contraire à la Constitution. Autrement dit, pour décrypter, ça porte atteinte à la liberté contractuelle, mais ça porte atteinte à un degré qui est justifié par des considérations d'intérêt général. Souvenez-vous de cette décision, parce que quand on va reparler assez longuement, enfin j'espère, de la décision qu'a rendue ce même Conseil sur la question des complémentaires santé, vous verrez que le renversement total du raisonnement lorsqu'il s'agit d'atteinte à la liberté contractuelle de l'entreprise. Donc c'est à géométrie variable. Ce que nous dit le Conseil constitutionnel, c'est que l'adaptation des salariés au rythme de la production est de nature à justifier une atteinte à la liberté contractuelle. Et on retrouve ici l'esprit de l'article 145 du traité de fonctionnement de l'Union européenne que j'avais cité, vous vous souvenez, oui, il faut une main-d'œuvre adaptable aux évolutions du marché. On est dans cette ligne logique, dans cette décision du Conseil constitutionnel. Avec en filigrane, bien sûr, l'analyse économique du droit et la mise en balance du droit et de l'efficacité économique. C'est-à-dire que la force obligatoire du contrat ne vaut que pour autant qu'elle n'est pas un facteur d'inefficience économique. On retrouve les modes de raisonnement propres à l'ON Economics tels que nous les avions évoqués l'année dernière. Alors, je me borne juste à une remarque, c'est que cette consécration constitutionnelle de l'adaptation des salariés au rythme de production de l'entreprise fait bon marché, c'est le cas de le dire, du principe général de l'adaptation du travail à l'homme qui a été proclamé en matière de santé et de sécurité du travail et d'aménagement du temps de travail par le droit européen. en droit européen, on a d'une part dans la directive cadre sur la santé et sécurité, et d'autre part dans la directive relative à l'aménagement du temps de travail, à deux reprises, cette référence à un principe général de l'adaptation du travail à l'homme. Bon. En fait, ce que consacre le Conseil constitutionnel, c'est le principe inverse d'adaptation des salariés au rythme de production de l'entreprise. Je termine sur ce point. J'espère vous avoir montré, sans forcer le trait, qu'il y a actuellement donc, ce mouvement d'un certain affaiblissement, d'une certaine érosion de la force obligatoire du contrat, qui est motivée d'une part par la promesse d'un lien durable et d'autre part par l'exigence d'une adaptabilité des salariés aux fluctuations et aux besoins du marché. Ça, c'est ce que j'appelais la disponibilité, première attente vis-à-vis du travailleur mobilisable. Deuxième attente, c'est sa réactivité. C'est un grand B, tout à l'heure c'était un grand A, mais je ne vous l'ai pas dit. Sa réactivité. Alors, on a déjà, derrière ça, je veux parler de l'indétermination, non plus des conditions de travail, mais l'indétermination des opérations de travail. En quoi va consister mon travail ? Donc, vous voyez, le cadre spatio-temporel, on a vu qu'il tend à se devenir incertain. Maintenant, on parle des opérations de travail elles-mêmes. Dans le travail tayloriste, on était dans la déshumanisation du travail par excès de prescription. C'est-à-dire, tout est prescrit, seconde par seconde. Là, nous allons voir, au contraire, que nous avons une indétermination, c'est-à-dire l'ouverture d'un espace de décision pour le salarié. Et cela est lié à l'essor de la direction par objectif que nous avons évoqué l'année dernière, puisque cette méthode de management repose sur une mobilisation des capacités intellectuelles du salarié à qui on cesse de dire « je te décris par le menu chaque geste que tu dois faire, mais je te fixe un objectif, tu as une marge de latitude pour l'atteindre, et ensuite nous allons évaluer la façon dont tu es parvenu à t'acquitter de cette tâche. » Du point de vue du sort du salarié, cette situation est évidemment ambivalente. D'un certain côté, elle restitue au travailleur en principe, une certaine marge dans l'accomplissement de sa tâche, une certaine autonomie dans la subordination, et pourrait donc être la source d'une certaine liberté dans le travail. D'une certaine manière, la maîtrise des opérations de travail que le taylorisme avait arrachée aux salariés lui est rendue à charge pour lui de rendre compte de l'usage qu'il en fait. Mais en revanche, ça c'est l'autre face de la médaille, dans la mesure où la direction par objectif tend à mettre à la charge du travailleur une obligation de résultat, sans lui donner pour autant forcément les moyens de peser sur le sens de son travail, elle peut être la source d'une aggravation de l'aliénation au travail. On dit, il faut que tu fasses tel chiffre, je ne veux pas savoir dans quelles conditions tu es. Ces chiffres n'ont pas forcément du sens pour le salarié. Donc dans ces cas-là, on est dans des nouvelles formes de déshumanisation du travail. Au plan juridique, cette modification des formes d'organisation du travail pose la question de la place de ces objectifs dans l'économie du contrat de travail. Est-ce que l'employeur peut les fixer souverainement ? Selon quelle procédure leur réalisation peut être évaluée ? Et quelles conséquences tirer de leur non-réalisation ? Et les réponses apportées à ces trois questions éclairent, nous allons le voir, la nature des nouveaux liens d'allégeance qui se tissent ainsi dans la sphère économique. Bon, je vais aller un peu vite. La fixation des objectifs, elle peut être soit contractuelle, soit unilatérale. Et la jurisprudence s'est appuyée dans le passé sur cette distinction pour décider que la contractualisation des objectifs était une condition de leur opposabilité aux salariés. Mais cette solution est aujourd'hui abandonnée et l'on s'accorde à considérer que la fixation d'objectifs relève du pouvoir de direction de l'employeur. Donc, peu importe que ce soit dans le contrat ou pas. Pour être opposable aux salariés, ces objectifs doivent remplir trois conditions qui aujourd'hui sont bien fixées en jurisprudence. La publicité, porté à leur connaissance, le réalisme, ils doivent être raisonnables et compatibles avec le marché. Et la troisième condition, c'est la capacité personnelle et matérielle de les atteindre. Le salarié doit avoir reçu la formation, la qualification requise, ainsi que les moyens matériels d'accomplir sa mission. Vous voyez que le juge s'est efforcé d'encadrer le recours à ces nouvelles techniques de gestion pour éviter justement qu'il y ait un déplacement du risque de l'entreprise sur la tête du salarié plutôt que sur celle de l'employeur. Deuxième point, l'évaluation de la réalisation des objectifs. Alors, c'est le corollaire de l'autonomie concédée aux travailleurs pour qu'ils les atteignent. Tu as une liberté, mais il faut que tu rendes compte. Tu rendre compte, tiens, ça c'est un terme pour ceux qui, en anglais, rendre compte, c'est un terme de comptabilité, accountability. Bon. Cette exigence d'évaluation est omniprésente dans tous les dispositifs de gouvernance par les nombres. Michael Power, qui est professeur à la London School of Economics et qui vient lui-même du monde de l'accountability, avait montré à la fin des années 90 dans un livre séminal qu'il s'agit d'un nouveau rituel caractéristique de ce qu'il appelle l'audit society. Je me demande si oui. Dont l'exercice, loin d'être neutre, était source de nombreux effets pervers dans le fonctionnement des organisations. C'est un grand livre, le livre de Michael Power, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à toute cette multiplication des évaluations, des audits, etc. C'est dommage qu'il n'ait pas été traduit en français. Et l'un de ces effets pervers, c'est l'apparition de nouveaux risques d'atteinte à la santé mentale, qui ont été mis en lumière notamment dans les travaux de Christophe Dejour, dont je vous signale là une petite conférence qu'il a faite. J'étais obligé de dire à mes étudiants que ça coûtait moins cher de l'acheter que de le photocopier, bon, parce que c'est un tout petit texte, mais très, très éloquent, très bien fait. Ce que le Code du travail appelle les méthodes et techniques d'évaluation des salariés recouvre une large variété de dispositifs que les sciences de gestion se sont efforcées d'inventorier. Ces méthodes et techniques font éventuellement appel, enfin font toujours appel, à la quantification, à des indicateurs chiffrés. Mais elles recourent aussi à des outils qualitatifs dont le plus emblématique est l'entretien d'évaluation. Entretien au cours duquel le salarié est invité à un exercice d'introspection sur les tâches qui lui sont assignées et la façon dont il s'en est acquitté. Alors, allez voir, là aussi c'est toujours une source d'inspiration, en tout cas pour moi, les traités de management et de gestion. Selon la présentation qu'en donnent les spécialistes de gestion, ce type d'entretien doit tout à la fois permettre aux salariés, je cite, de donner un sens à son travail et de comprendre sa place dans l'entreprise, et à l'entreprise, je cite, la possibilité de mobiliser au maximum l'engagement individuel source de performance. Donc nous retrouvons ici l'exigence d'une mobilisation qui n'est pas dite totale mais maximale, ce qui revient au même. Et en revanche, ce que le salarié est censé gagner, c'est que son travail s'enrichit en sens. Et tout ça se passe dans le cadre d'un entretien, d'un tête-à-tête, j'allais dire d'une confession. Parce que, en effet, sont ainsi métamorphosées à des fins économiques les vieilles techniques religieuses et judiciaires de l'aveu. Dans la confession, on reconquiert son identité par l'entremise de quelqu'un qui vous met en contact avec la référence divine, dans le cas de la confession sur le mode catholique, par exemple. Mais là où justement les techniques que le droit canon détaille si longuement de l'aveu signifiaient le pouvoir subjectif d'assumer sa conduite, c'est-à-dire avouer, c'était se reconnaître responsable. Les formes contemporaines de l'aveu deviennent, ainsi que l'ont observé Gladys Swain et Marcel Gauchet dans leur livre tout à fait intéressant, qui s'appelle « La pratique de l'esprit humain », un signe de consentement des sujets à leur dépropriation. Bon, un vocabulaire un peu... Mais il dit ceci, d'instrument d'autonomie symbolique, je suis coupable, certes, mais en connaissance de cause et avec la conscience parfaite rétrospectivement de la faute commise, eh bien, de cet instrument d'autonomie symbolique, on passe à une acceptation en acte d'une irrémédiable dépendance, d'un droit de regard constitutif de l'autre, non pas sur votre personne, mais sur votre vérité intérieure. Alors, Gauchet et Swen n'écrivent pas ça du tout à propos des techniques de management, mais sur plutôt sur ces nouveaux usages des psychos, la thérapie pour les normaux que j'évoquais tout à l'heure. Cette observation de portée générale caractérise bien la nouveauté des techniques d'évaluation des salariés, en même temps qu'elle laisse en deviner les dangers. Alors, j'avais prévu de vous décrire l'encadrement, quand même, que la loi et la jurisprudence ont construite pour endiguer ces techniques d'emprise psychologique, mais je ne vais pas le faire, parce que ça serait trop long. Et je vais me borner, pour terminer, à vous donner quelques exemples de pratiques qu'elle a condamnées. Elle condamne les pratiques d'évaluation qui risquent de porter atteinte à la santé des salariés. Là, on retrouve ce qui est le vrai noyau dur du droit du travail, c'est la sécurité physique. Ça a toujours été ça. Le droit du travail est né au XIXe siècle du fait qu'on voit les enfants soumis à des conditions de travail telles que il y a une mortalité galopante et ceux qui survivent ne sont pas en état de porter les armes, alors on commence à s'inquiéter. Ou si les femmes, justement, sont dans un tel état qu'elles ne peuvent plus enfanter. Donc c'est là qu'on est le droit du travail, sécurité physique. Eh bien, on peut dire que face à ces nouvelles techniques de management, le point de résistance est la notion de protection de la santé mentale, qui joue un rôle comparable à celui qu'a pu jouer la protection de la santé physique dans la naissance et l'essor du droit social à la fin du XIXe siècle avec la loi sur les accidents du travail et les premières lois de limitation du temps de travail. Donc la Cour de cassation cherche à imposer l'innocuité de ces modes d'évaluation. Et elle a décidé que lorsque ces méthodes étaient, je cite, « de nature à générer une pression psychologique entraînant des répercussions sur les conditions de travail », elle devait être soumise à l'avis préalable du comité d'hygiène et du comité d'hygiène et de sécurité. Lorsqu'elles sont, vous voyez, de nature à générer une pression psychologique. Il faut soumettre à consultation des représentants du salaire. S'il y en a, puisque pour qu'il y ait plus d'emplois, il paraît qu'on va faire supprimer les CHSCT de façon provisoire. Plus récemment, la Cour de cassation a condamné en termes généraux la pratique du classement par quota, dite « ranking » en anglais, qui consiste pour les évaluateurs à répartir le personnel en groupes de niveau dont chacun doit contenir un pourcentage préétabli. Donc on vous dit, bon, vous prenez votre piétail là et il faut me mettre dans des cases et il faut qu'il y ait 50% de médiocres, 25% de bons et 25% de très bons. Bon, vous faites comme vous voulez. La Cour de cassation a décidé que la mise en œuvre d'un mode d'évaluation reposant sur la création de groupes affectés de quotas préétablis que les évaluateurs sont tenus de respecter est illicite. Pourquoi est-ce qu'elle décide ça? On ne le comprend qu'en lisant le moyen du pourvoi, pour ceux qui vous pouvez vous reporter aux arrêts que je cite, hein, du 27 mai 2013, tout ça c'est de la jurisprudence récente. Pourquoi ? Parce que une technique d'évaluation qui repose sur des quotas préétablis, même indicatifs pour la répartition des salariés en différents groupes, implique nécessairement la prise en considération de critères étrangers à l'évaluation de l'aptitude des salariés. Parce que nécessairement, si vous devez en trouver 50% de mauvais, c'est biaisé dès le départ. On exclut la possibilité qu'il y en ait 80% de bons. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc la Cour de cassation condamne ce type de disposition. ça serait intéressant, ça pourrait s'appliquer à la fonction publique, peut-être, certains dispositifs de primes actuellement mis en place. Bien, je n'ai pas réussi à terminer tout à fait cette section, mais presque. Donc, nous nous retrouverons pour la terminer la prochaine fois, qui, donc, je le répète, ne sera pas la semaine prochaine, mais le mercredi suivant. Donc, je vous invite, pour ceux qui s'intéressent, à venir nombreux au colloque la semaine prochaine, qui réunira des personnalités remarquables. Nous aurons en particulier bon, quelques grands noms, enfin je parle des gens qui viennent d'un peu plus loin, Gunther Teubner, qui est considéré comme un des plus brillants théoriciens du droit des entreprises actuellement. Il y aura aussi, et je le signale pour ceux qui ont lu le programme, parce qu'il y a un tout petit changement, la responsable des relations sociales du patronat allemand, qui viendra nous parler des raisons du succès de l'Allemagne, de la conception qu'il peut y avoir sur l'entreprise allemande et sa spécificité. Elle va intervenir le vendredi matin, et elle viendra en fin de compte le jeudi en fin d'après-midi. Alors, je vous le signale pour ceux qui ne voudraient pas la manquer, ce petit changement. Madame Hornung Draus. Bon. Et puis, les noms des autres, ils sont sur l'affiche et ils sont tous excellents. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, donc peut-être à la semaine prochaine.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.